Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La guerre en Ukraine, nouvel entretien téléphonique ce dimanche entre le président français et son homologue russe Vladimir Poutine, le chef de l'État russe qui s'est aussi entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les Ukrainiens toujours plus nombreux à fuir les combats. Selon l'ONU, plus de 1 500 000 personnes se sont déjà réfugiées à l'étranger depuis l'invasion du pays par la Russie le 24 février dernier. Parmi les ONG qui se mobilisent, le Secours Populaire, son secrétaire national, le docteur Ismaël Assouné, sera l'un de nos invités. Russes et Ukrainiens se retrouveront ce lundi pour un troisième round de pourparlers. Les attaques de Ben Gherdan en 2016, la justice tunisienne a condamné à mort 16 djihadistes pour leur implication parmi les 96 prévenus. Un remaniement ministériel en France à quelques semaines de la présidentielle des 10 et 24 avril prochains. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, nommée au Conseil constitutionnel et remplacée par Joël Giraud. Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, quitte aussi ses fonctions. Un départ à la suite d'accusations de harcèlement au sein de son cabinet. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est l'écrivain René Guiton pour 50 moments clés de l'histoire de l'Orient, extrait dans votre édition. Le 11e jour de l'invasion russe en Ukraine, le chef de l'État français s'est une nouvelle fois entretenu ce dimanche par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, un entretien qui a duré 1h45. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est lui aussi entretenu au téléphone avec le président russe auquel il a réclamé un cessez-le-feu général urgent en Ukraine, selon un communiqué de la présidence turque. Vladimir Poutine exige lui d'abord que les conditions de la Russie soient remplies. Une guerre qui entraîne un vaste mouvement de la population, selon l'ONU, plus de 1 500 000 personnes se sont déjà réfugiées à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février et il y a plus d'un million de déplacés à l'intérieur du pays. Un exode qui suscite une forte mobilisation, notamment dans les États voisins comme la Moldavie. Parmi les ONG qui se mobilisent, le Secours Populaire, son secrétaire national, le docteur Ismaël Assouné.
Le Secours Populaire français est présent en Ukraine depuis 2015. Avec trois axes de travail, avec des partenaires bien sûr, avec trois axes. Le premier c'est médical, le deuxième c'est action sociale, et troisième et le plus important c'est quand même des actions avec les enfants. On a un mouvement Copains du Monde pour les enfants où il y a des dizaines de villages pour les enfants et tous les ans, pendant trois semaines, depuis 2015, il y a des enfants ukrainiens qui viennent nous voir avec des animateurs. Et on mène des actions pour aider les orphelins. Donc la catastrophe est arrivée et donc maintenant on continue le travail avec nos partenaires et on est sur la frontière polonaise et sur la frontière moldave. Et on travaille, bien sûr, on continue à travailler à l'intérieur de l'Ukraine.
Ce travail à l'intérieur de l'Ukraine, comment cela se traduit?
Alors là, actuellement, il y a un flux de réfugiés. Le plus important, c'est côté polonais, là où on a notre partenaire polonais, on travaille pour aider les réfugiés. Donc les besoins sont maintenant connus, des produits de première nécessité, des produits d'hygiène, un kit médical, surtout pour les enfants. Et comme vous le savez, la quasi-majorité des personnes qui traversent et qui vont s'approcher de 1 million de personnes, ce sont des femmes et des enfants. Et donc là, on est avec le partenaire polonais. À l'intérieur, on travaille avec les orphelinats, c'est-à-dire il y a, bien sûr, on estime qu'il y a 4,5 millions ou 5 millions qui vont passer la frontière, mais il reste quand même 48 millions de personnes qui vont rester à l'intérieur. Et notre expérience montre que les gens qui sont très pauvres et qui n'ont pas le moyen de se déplacer, et surtout particulièrement les personnes fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants qui sont orphelins, sachant qu'en Ukraine, il y a aux alentours de 150 000 orphelins. Donc, ça, c'est le travail à l'intérieur, avec les orphelins, on continue avec notre partenaire. Et on est à la frontière avec la Moldavie, parce que notre partenaire aussi a les contacts du côté sud Moldavie. On collecte seulement de l'argent, parce que notre expérience montre qu'avec l'argent, que ce soit à la frontière, on peut acheter et éviter tout ce qui est transport, les aléas des transports, etc. Et donc maintenant, on arrive à trouver en Pologne tout ce qu'on veut. Donc on peut acheter sur place à la frontière Et en Moldavie aussi, on arrive à trouver, même côté Roumanie aussi, la même chose, on peut trouver, sachant que la partie sud, c'est-à-dire Bucarest, Moldavie, Ukraine, c'est pas loin, hein, c'est-à-dire à 5 heures en voiture.
Vous mettez aussi à disposition des solutions d'hébergement dans vos centres?
Le Secours Populaire français a pratiquement 700 comités un peu partout en France. Et les fédérations, ils ont déjà commencé à s'organiser avec les amis, avec les personnes où on a l'habitude de recevoir en général des enfants, en famille, etc., pour héberger ces familles. Malheureusement, bien sûr, c'est en fonction du nombre. Mais ce qui est sûr et certain, il y aura une prise en charge sur le plan social, sur le plan psychologique et sur le plan ce qu'on fait aussi pour les Français qui sont en état de pauvreté, c'est-à-dire distribution, produits alimentaires, produits d'hygiène, des habits, des dés, etc., comme on a l'habitude de le faire pour les personnes dont le besoin en France.
Vous avez mis l'accent sur un élément important, l'aspect psychologique.
Exactement, et surtout, la quasi-majorité de personnes, ce sont des femmes avec des enfants, des fois des personnes âgées, donc il y a la question psychologique pour les enfants. Donc on a cette expérience et ils ont déjà préparé ce qu'on appelle un kit pédagogique pour la prise en charge des enfants et on a un réseau de psychologues, de personnes compétentes pour la prise en charge des enfants.
Vous avez cette expérience, rappelez-vous, avez-vous déjà eu à faire face à une telle crise?
Oui, un peu partout dans le monde, mais particulièrement l'expérience libanaise, c'est-à-dire en 2006, on appelle ça la guerre de 2006 au Liban, il y a eu pratiquement 1 million de personnes déplacées du sud Liban et de la banlieue sud. Donc c'est 1 million de personnes, c'est pareil, hein. Il y a eu un déplacement important et il y a eu une prise en charge avec notre partenaire libanais et on a travaillé au moins pendant 5 ans, 6 ans. D'ailleurs on continue, on a ce partenariat depuis 2003 avec le partenaire libanais. Et c'était une expérience désastreuse à cause de ce conflit israélo-libanais qui a eu lieu en 2006.
Et cela vous permet aujourd'hui de bien identifier les besoins des personnes déplacées?
Bien sûr. Nous, on se base sur le partenariat. C'est-à-dire, c'est rare qu'on aille dans un pays où on n'a pas de partenaire. Et des fois, c'est un consortium de partenaires. Là, par exemple, en Pologne, on travaille avec les partenaires polonais et ça sera Secours Populaire, partenaire polonais et partenaire ukrainien. Et c'est pareil à l'intérieur de l'Ukraine, c'est pareil en Moldavie. On a eu ce genre de problèmes à propos des flux de réfugiés aussi en Irak. Et ça, c'était pareil aussi, le déplacement de la population qui a eu lieu particulièrement dans la zone de Kurdistan d'Irak où on a un partenaire et qui a assuré la prise en charge. Bien sûr, les besoins légèrement peuvent être différentes d'une population à l'autre, mais les besoins restent toujours le même.
Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la politique d'accueil de la France? La France qui a appelé les maires à s'organiser pour accueillir les réfugiés à venir.
Pour moi, il y a un élan de solidarité incroyable qui s'est déroulé dans les derniers jours en France. Et cette solidarité, c'était un peu partout, hein. C'était populaire, c'était collectivité, c'était association humanitaire. Et donc, il y a un élan de solidarité avec le peuple ukrainien. Et donc, ça, c'est un élément important et capital pour dire que vous n'êtes pas seul et on est là pour vous aider.
Et vous appelez d'ailleurs aux dons financiers, aux initiatives de collecte populaire.
Exactement. Pour nous, l'élément le plus important, c'est d'avoir des dons financiers. Et on n'arrête pas de le dire, qu'il faut faire attention, que bien sûr, on va avoir des réfugiés un peu partout en Europe, mais il restera toujours 40 millions de personnes à l'intérieur et beaucoup de personnes fragiles et qui sont encore plus fragilisées. Avant, c'était parce qu'on travaillait avec eux pendant la période de Covid-19. Il a fragilisé et maintenant avec la guerre, c'est quelque chose d'atroce pour eux. Et donc aussi, on essaye par tous les moyens de garder le contact avec nos partenaires à l'intérieur aussi pour continuer à aider, d'où l'importance du don financier.
Le docteur Ismaïl Assouné, secrétaire national du Secours populaire. Russes et Ukrainiens se retrouvent ce lundi pour un troisième round de pourparlers. Sur le terrain en Ukraine, des frappes russes, selon le président ukrainien, ont détruit ce dimanche l'aéroport de la ville de Vinnytsia, quelques 200 km au sud-ouest de Kiev. Ce dimanche a aussi été marqué par de violents combats avec les forces russes pour le contrôle des villes de Mykolaïev dans le sud et de Tchernigiv dans le nord et une opération militaire ukrainienne dans la région de Donetsk. Les principaux efforts se concentrent sur la ville de Mariupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine. Les soldats russes se rapprochent également de Kiev, rencontrant une tenace résistance. Des conséquences aussi dans les airs. La compagnie russe Aeroflot a annoncé la suspension de ses vols internationaux à partir de mardi prochain. Le régulateur de l'aviation russe, Rosaviatsia, a recommandé à toutes les compagnies du pays de cesser les vols vers l'étranger afin d'éviter la saisie de leurs appareils. Des troupes de l'OTAN sont déployées en Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine. La ministre française des armées s'est rendue sur place ce dimanche. Florence Parly assure qu'il s'agit d'une mission défensive. L'Alliance ne menace pas la Russie. L'Europe ne menace pas la Russie. Personne ne menace la Russie, a assuré Florence Parly, tout en rappelant l'unité sans faille des membres de l'OTAN. Et le président russe Vladimir Poutine a averti que l'Ukraine pourrait perdre son statut d'État si elle continuait à refuser de céder aux exigences russes. Moscou demande notamment un statut neutre et non nucléaire pour le pays et sa démilitarisation. Des demandes que Kiev, qui cherche à adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, juge inacceptables. Les attaques qui ont fait en 2016 des dizaines de morts et blessés dans la région de Ben Gardane en Tunisie, près de la Libye. La justice tunisienne a condamné à la peine capitale 16 djihadistes pour leur implication. C'est ce qu'indique le tribunal de première instance de Tunis. La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a également prononcé des jugements allant de 4 ans à la perpétuité à l'encontre de 80 autres accusés. Après ce verdict, le parquet a annoncé qu'il faisait appel de l'ensemble de ces jugements. Les forces de l'ordre israéliennes ont tué ce dimanche un palestinien, un homme qui tentait de poignarder des policiers postés dans la vieille ville de Jérusalem, dans la partie orientale de la ville. Le palestinien âgé de 19 ans, originaire de Jérusalem-Est, a blessé au couteau l'un des policiers avant d'être abattu. Un remaniement ministériel en France à quelques semaines de la présidentielle des 10 et 24 avril prochains. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, est remplacée par Joël Giraud, secrétaire d'État à la ruralité. Jacqueline Gourault va rejoindre le Conseil constitutionnel au sein duquel elle a été nommée. Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, quitte aussi ses fonctions. Un départ à la suite d'accusations de harcèlement et de maltraitance au sein de son cabinet. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, ce dimanche à 19h, et l'écrivain René Guiton. Il publie 50 moments clés de l'histoire de l'Orient dans la collection 3 minutes pour comprendre au courrier du livre, extrait de cette émission.
Mon père avait été en poste à Latakié, le port syrien, au temps du mandat français, donc moi je suis né après, mais il envoyait régulièrement des souvenirs, des cartes postales. Il est revenu une ou deux fois avec des pièces d'or, etc. Et donc, moi, je suis né dans un univers où il y avait cet Orient qui me berçait au quotidien. Et donc, je regardais toujours vers l'Orient où j'étais appelé, inspiré. Et donc, par la suite, bon ben, j'ai grandi, etc. Je suis né à Casablanca, au Maroc, donc dans un pays qui était un mélange des cultures. Et donc, la présence de l'Orient était très forte, à travers la langue, même si c'est pas exactement la même langue, à travers la cuisine, même si c'est pas exactement la même cuisine. Mais bon, bref, ça me donnait le goût de l'Orient. Alors, ce qui m'a guidé ensuite, ce sont mes études. J'ai étudié à l'école française biblique et archéologique de Jérusalem. Quand on est à Jérusalem, on est au cœur de tout ce qui est très proche de la naissance des grands courants de l'Orient qui nous bercent, qui ont fondé notre civilisation, qui ont marqué notre civilisation, comme l'invention de l'écriture. Je parle avant les hiéroglyphes de l'écriture cunéiforme qui va naître dans le pays de Sumer. Et donc, je suis allé découvrir cette écriture en Irak d'aujourd'hui, donc dans Mésopotamie, jusqu'à Babylone, jusqu'à Ur des Chaldéens, comme il est écrit dans la Bible. Forcément, vous tirez un fil, et c'est un fil d'Ariane, parce que quand vous allez à Ur, il y a peu de gens qui y sont allés, j'y suis allé, vous découvrez la ziggourat d'Ur, qui est une, je dirais, un embryon de la tour de Babel, ou en tous les cas ce qu'il en reste. On ne sait pas exactement où est la tour de Babel, mais vous avez tiré le fil de la tour de Babel, et puis vous êtes donc à l'origine des croyances avant qu'elles ne deviennent des religions. Vous découvrez forcément ce qui sont les mots qui courent aujourd'hui, les noms qui courent aujourd'hui, qui ont fondé notre civilisation, parce que à Ur, vous ouvrez la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est tout de suite question d'Ur, de la naissance d'Abraham. Ah, ça y est, Ur, donc vous avez tiré le fil, Abraham, et ainsi de suite. Abraham, ensuite, vous ouvrez le Coran, et bien sûr, vous trouvez Ibrahim, et vous y découvrez les convergences ou les points communs sur les grandes traditions, les croyances ou les légendes.
L'écrivain René Guiton, il publie 50 moments clés de l'histoire de l'Orient dans la collection 3 minutes pour comprendre au courrier du livre. Il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.